Par ici les sorties sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous nos auditeurs. Au micro, Elisabeth Couget et Simon assurent le parfait déroulement technique de notre émission. Et nous le remercions d'avance. Par ici les sorties nous fait découvrir aujourd'hui le 10e prix Fulbert de Chartres. Dans notre studio, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Géroudet, premier adjoint au maire et président fondateur du prix Fulbert de Chartres, ainsi que nos deux lauréats, Anne-Marie Cadeau-Collin et Samuel Sadone. Bienvenue, madame et messieurs, sur les ondes de Radio Grand Ciel. Je vous dis bonjour. Alors, je me tourne d'abord vers monsieur Géroudet, qui, comme je l'indiquais dans mon préambule, est le père fondateur de ce prix littéraire, qui depuis 10 ans embellit le blason de Chartres. Bon anniversaire, monsieur Géroudet.
Oui, ça fait plaisir d'arriver à 10 ans. Quand on l'a créé en 2006 pour les célébrations nationales de Fulbert de Chartres, je n'aurais jamais imaginé que ce prix existerait aussi longtemps, et ça me fait très plaisir parce que ça donne envie aux gens de lire, de découvrir le Moyen-Âge. Et donc je crois que c'est vraiment un prix intéressant, facile à lire, que ce soit le prix Fulbert ou le prix Fulbert Jeunesse. Ce sont des livres accessibles à tous et une bonne lecture pour l'été.
Alors c'est justement ce que je voulais vous demander, est-ce que vous avez imaginé il y a 10 ans, quand j'ai eu déjà d'ailleurs le plaisir de vous accueillir, ainsi que le premier lauréat de ce prix, est-ce que vous avez pu imaginer que ce prix perdura d'année en année et que ça nous ferait découvrir toutes ces merveilles
qui nous
plongent dans le Moyen-Âge.
Je l'espérais, mais c'est toujours difficile de savoir la pérennité d'un prix littéraire. Mais je pense que Chartres en avait besoin, et ça donne une image nouvelle, un rayonnement différent de Chartres, parce que le Moyen-Âge est très important. Et je pense que le nom de Fulbert de Chartres méritait d'avoir un prix qui dure et qui permette de découvrir les différentes facettes. Et on peut dire que chaque année, on a eu des lauréats toujours très sympathiques, et qui avaient des ouvrages très différents.
Très différents,
on a vraiment vu des femmes qui étaient exceptionnelles au Moyen-Âge, l'histoire des chevaliers, plein d'histoires sur les Normands, la conquête de l'Angleterre. Ça a été très varié, en fait. Et
très
à
important.
Chaque fois, ou sur la conquête de l'Italie du Sud, j'avais beaucoup aimé aussi cet ouvrage.
Voilà, exactement.
Mais c'est vrai, il y a eu à chaque fois une diversité dans les approches qu'on a pu avoir sur le Moyen-Âge, globalement méditerranéen et européen. Toujours très intéressant.
Pour nos invités, vous pourriez peut-être dire que ça a été créé pour le millénaire de Fulbert.
Tout à fait.
Et donc, je ne sais pas si vous le saviez, l'origine de ce prix qui a donc été décidé et inventé par notre ami Patrick Géroudet, ainsi que Servan Delair, que nous n'oublions pas.
Oui, à l'époque, il était en charge des célébrations nationales du millénaire. Et Servan est toujours très présente dans tout ce qui concerne la culture à Chartres.
Alors, au début, il y avait prix Fulbert de Chartres.
Oui.
Tout court. Tout
et
simplement.
Rapidement, j'ai créé un deuxième prix, un prix Fulbert de Chartres Jeunesse, qu'on a su faire évoluer parce que maintenant, le comité de lecture choisit trois ouvrages jeunesse et nous les donnons à 3 classes d'école dès septembre. Et comme ça, et pendant 2 trimestres, ils peuvent lire les ouvrages et ils votent comme des citoyens le vendredi avant les vacances de printemps, ce qui permet d'avoir aussi cette accroche auprès des jeunes. Et donc ça m'a paru très intéressant de pouvoir donner envie de lire des romans, des histoires toujours passionnantes, et c'en est le cas aujourd'hui d'ailleurs, pendant l'été pour les autres élèves qui auront découvert ces jours-ci le prix Fulbert de Chartres Jeunesse. Donc je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ce deuxième prix, puisque ça permettait de toucher je ne vais pas dire une clientèle, mais un autre public. Mm-hmm. Et je pense que c'est important parce que la jeunesse a peut-être tendance à ne pas lire assez à mon goût. Moi, il me semble que je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Mais je vois que beaucoup de jeunes lisent aussi Harry Potter ou d'autres choses. Donc, malgré tout, il y a quand même d'autres façons de lire les ouvrages, ou les mangas sont aussi très à la mode. Donc, il y a quand même d'autres approches qui permettent quand même aux jeunes de lire.
L'important, c'est qu'ils lisent. Voilà,
ce qui est important, qu'ils lisent. En priorité, le prix Fulbert de Chartres, mais je ne peux pas le demander à tout le monde.
Est-ce que les écoles sont ciblées à Chartres ou bien vous restez intramuros ou...
C'est les écoles de la ville de Chartres.
De la ville de Chartres. Bah oui, prix Fulbert de Chartres.
Je suis élu de la ville de Chartres. Mais par contre, les écoles changent. Chaque année, on a eu l'école Saint-Jean, là, on a Vlaminck, le Grand Jardin.
Donc, c'est pas toujours
François
les mêmes écoles.
Donc, ça tourne. On essaye de faire tourner un peu.
Les jeunes travaillent sous la houlette d'un professeur ou bien ils font ça tout seuls
Non, le professeur,
livrés à eux-mêmes, non ?
Le professeur, bien sûr, les encadre et je les remercie parce que c'est un travail supplémentaire pour ces enseignants de s'intéresser au prix Fulbert de Chartres.
Est-ce que cette année, le choix des livres était plus difficile, moins difficile?
Alors évidemment,
semblable.
On arrive assez facilement à trouver les trois nominés, puisqu'il y a trois nominés et un lauréat. C'est souvent plus difficile dans les trois nominés de trouver le lauréat.
Parce que j'ai constaté il y a quelque temps qu'il y a beaucoup plus de membres de jury que les années précédentes. Enfin, il me semble, je peux me tromper. Est-ce que le fait d'avoir autant d'idées, autant de voix, est-ce que ça rend plus facile ou plus difficile choix?
Plus il y a de membres dans le jury, plus c'est difficile. Parce que chacun a ses opinions un peu sur les questions. Donc c'est vrai que... Je trouve quand même qu'on arrive assez facilement à voir les 3-4 ouvrages les plus intéressants dans la sélection. Puisque chacun apporte un peu ses idées sur les ouvrages. Et en particulier, je remercie les bibliothécaires de la médiathèque de Chartres qui aussi en proposent le plus grand nombre.
Bien sûr.
Et donc après, c'est vrai que dans les 3-4, là, déjà, on arrivait des fois, cette année, on avait 4. Il fallait en enlever un pour être à 3 nominés. Bon, là, déjà, ça s'est un peu bataillé. Puis, pour le lauréat, bah aussi, c'est pareil. On a du mal, des fois, à faire émerger clairement un lauréat. Par contre, ce qui m'a beaucoup étonné à chaque fois, pour le prix Fulbert de Chartres Jeunesse, l'élection des enfants, c'est toujours à une majorité écrasante. Je me suis dit, ça se trouve, il va y avoir égalité de voix, ou je sais pas, je vais être très embêté. Mais pas du tout. À chaque fois, ça a été... largement à 80-90% à chaque fois.
Ils ne sont pas indécis, nos enfants.
Pas du tout. C'est drôle parce que c'est des classes différentes.
Je voulais dire que le prix Fulbert d'année en année change, comme vous disiez tout à l'heure, mais je trouve en particulier, je ne parle pas de la jeunesse qui est un roman, ça rappelle un peu les autres années, un autre roman, d'autres sujets, d'autres périodes. Mais en ce qui concerne le prix Fulbert de Chartres, donc le livre pour adultes, si on peut dire, c'est vraiment très très différent de par rapport aux autres années.
Oui, mais on ne s'interdit rien. Je veux dire, on ne reste pas toujours sur le roman historique. Ça peut être aussi documentaire. Ça pourrait être, on a failli avoir un livre de cuisine, de recettes une année sur le Moyen-Âge. Le critère, c'est d'être sur le Moyen-Âge et d'être grand public. Donc, c'est assez large et on est sur 1000 ans d'histoire pratiquement. Ah. Donc, on a de quoi faire et beaucoup d'éléments intéressants à découvrir.
On va tout à l'heure, dans les autres parties de l'émission, on va parler de ses œuvres.
Oui.
Et pour le moment, je vous propose une petite pause musicale. Et donc, nous allons écouter les moines de Solem. Gloria in excelsis Deum, et in terra ad solibus bone voluntatis. Je suis entourée dans le grand studio du Radio Grand Ciel à Chartres par Patrick Géraudet, président fondateur du prix Fulbert de Chartres, et les deux lauréats de cette 10e année du prix Fulbert, et où vous avez été distingués. Madame Cadeau-Collin et Monsieur Sadone, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Je suis ravie de vous avoir, mais je dis place d'abord à la jeunesse. Et on donne la priorité aux femmes aussi. Je voudrais qu'on parle de l'enfant trouvé de l'abbaye, parce que vous êtes l'heureuse lauréate de ce prix. Étiez-vous surprise par le choix de notre jeune jury ?
Eh bien, je ne m'y attendais pas. Ça a été une très, très bonne surprise, bien entendu. Surtout, j'étais un petit peu étonnée de la sélection de ce roman par des enfants de CM2, alors que habituellement, mes lecteurs sont plutôt 6e, 5e. Et j'ai été très contente de voir que ces livres étaient accessibles à des enfants de 10, 11 ans. Et pour moi, c'est une grande satisfaction parce que j'essaye toujours d'écrire sans concession, que ce soit bien écrit, mais en même temps facile à lire, accessible à des enfants. Et j'ai donc eu la preuve que même des enfants de 10 ans pouvaient le lire avec, sans difficulté et avec plaisir.
Alors, je n'ai pas assisté à la rencontre que vous avez eue avec ces jeunes. Justement, je voulais savoir, est-ce que les questions qui vous ont été posées par ces enfants vous ont surprise, émue, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous étiez étonnée par moment par leurs questions ?
Eh bien, si j'ai été étonnée, c'est par la qualité de leurs questions, le niveau de leurs questions. Certaines posait justement des problèmes essentiels sur la création littéraire. Alors bien sûr, certaines questions sont plus anecdotiques. Les enfants demandent si j'écris le matin ou l'après-midi, avec un ordinateur ou avec un stylo, des choses comme ça, bien sûr.
C'est bien.
C'est des questions tout à fait légitimes. Mais d'autres posent des questions plus
pertinentes,
un peu plus subtiles sur lorsque l'écrivain, ça revenait à ça, lorsque l'écrivain est en panne, qu'est-ce qu'il fait si ça n'avance pas, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un ouvrage refusé par l'éditeur?
Ah oui.
Et pourquoi?
C'était
des questions tout à fait intéressantes.
Donc, c'est peut-être des enfants qui envisagent plus tard de faire autant que vous.
Mais il y en a un, et on me le demande hein, parfois lorsque je suis en contact avec des enfants, ce qu'il faut faire pour être écrivain.
Ah oui, ah oui.
Et là, on m'a demandé quelles qualités il fallait pour devenir écrivain.
Ah oui.
Alors moi, j'ai répondu, il faut surtout ne pas se décourager, s'accrocher, se dire qu'on va avoir à travailler, parce que c'est un travail, que ça demande de la peine, qu'on n'a pas envie d'écrire tous les jours, et que l'inspiration, comme une sorte de voix mystérieuse qui vous chuchoterait à l'oreille, ça n'existe pas, qu'on a au départ une bonne idée, une idée qu'on pense intéressante, originale, et puis qu'à partir de ça, il y a beaucoup de travail.
Mais je trouve que votre réponse est tout à fait très pédagogue, parce que finalement, ça va. Je pense que votre réponse va à pas mal de questions, hein, parce que voilà, ça va aussi à leurs études, voilà,
oui.
Ça correspond à tout ça. Est-ce que vous écrivez depuis longtemps ?
Oh, seulement depuis une dizaine d'années.
Ça
a été une occupation secondaire dans ma vie. Je me suis mise à écrire lorsque j'ai pris ma retraite d'enseignante. Mm-hmm. J'ai eu le temps, il faut du temps disponible pour écrire. Et ça a été un très grand plaisir pour moi, une sorte de deuxième souffle.
Vous étiez enseignante dans quel domaine?
Alors, ben, j'enseignais à l'université de Bordeaux 3, où j'ai donc pendant plus de 30 ans enseigné la langue et la littérature du Moyen-Âge.
Donc, vous étiez
déjà dans le bain du Moyen-Âge.
Oui, je pense bien dans le bain. Alors, L'enfant trouvé de l'abbaye n'est pas votre premier ouvrage, je suppose.
Oui, jusque-là, j'ai fait effectivement, j'ai adapté pour un public jeune de 11-12 ans, j'ai adapté de grandes œuvres littéraires du Moyen-Âge, comme Perceval ou le Comte du Graal, Merlin, la chanson de Roland, donc parce que je pensais qu'à condition d'être adapté, aménagé, ces œuvres pouvaient être tout à fait intéressantes pour des enfants. Donc j'avais fait uniquement de l'adaptation, si vous voulez. Et là, j'ai décidé, il y a 3 ans, et c'était un peu de franchir le pas, et de faire donc un roman historique, se passant au Moyen-Âge, mais un roman dont j'aurais inventé l'intrigue, les personnages.
Oui,
donc
moi-même,
c'était une nouveauté.
Moi, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, c'est un joli roman romantique.
Oui, oui certainement.
Pour moi, c'était un roman de fille, quand même. Hein.
Assez, effectivement. Et justement, je, C'est pour ça que j'envisage pour le prochain de faire un roman avec, dont le héros soit un garçon. Parce que je sais que les enfants, les jeunes qui me lisent sont souvent des garçons. Parce que lorsque j'ai fait des adaptations d'œuvres du Moyen-Âge, c'est une littérature très masculine hein, à l'origine. La littérature médiévale destinée à un public fortement masculin. Et avec beaucoup de récits, de chevaliers, de combats, et bien entendu, les garçons y trouvent leur compte.
Bien sûr.
Donc j'ai beaucoup de lecteurs.
En général, oui, plutôt.
Plutôt des lecteurs.
Monsieur Géraudet, les œuvres qui étaient en lice pour le prix jeunesse étaient des romans aussi, tous les trois?
Ils étaient dans le même esprit.
Même acabit.
On essaye toujours d'avoir les trois dans le même esprit, malgré tout, pour que dans la sélection, ça ne parte pas dans tous les sens. Donc le jury choisit trois ouvrages qui ont un peu la même configuration. Mmh. Et c'est ce qui plaît, je crois, aux élèves de CM2 d'avoir ce genre d'ouvrage avec une belle histoire, une belle fin en général. Et donc
ça se termine bien, c'est bien.
Moi, j'aime bien, personnellement. J'aime bien les lire. Et celui-ci en particulier, L'enfant trouvé de l'abbaye.
Est-ce que les enfants, Madame Cadeau-Collin, que vous avez rencontrés, ont expliqué pourquoi ils vous ont choisi? Non?
Plusieurs m'ont dit qu'ils avaient aimé le suspense.
Ah oui.
Jusqu'à la fin. Ça a été apprécié. Plusieurs ont mentionné comme élément d'attrait pour ce livre.
Mmh. Ah oui, parce que l'imaginer une jeune fille partant seule, fuyant la vie qu'on veut lui imposer, c'est pas évident. Hein. Même aujourd'hui, on peut imaginer qu'un enfant qui doit s'enfuir, parce que quelquefois, peut-être nos enfants disent « c'est une vie qu'on ne peut plus supporter, il faut s'en aller ». Donc finalement, ils peuvent se mettre à la place de cette jeune fille qui était l'héroïne de l'enfant trouvé de l'abbaye.
Oui, j'aimais particulièrement l'idée de représenter, même à cette époque, une fille qui, avant tout, soit courageuse.
Oui, c'était ça, c'était une fille courageuse.
Effectivement. Vraiment du cran.
Et elle a été récompensée.
Oui, c'est bien pour sûr. C'est là j'adore les histoires qui finissent bien, professeur. Ça, je suis incurable là-dessus.
j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, donc, c'est un roman, mais ça dépeint ce 13e siècle... relativement 13e.
Ah oui, j'ai fait le 13e siècle, oui. Oui, j'ai fait une importante recherche, une importante documentation, justement, sur la vie dans les couvents de femmes, couvents où on éduque les jeunes filles, ce qu'elles faisaient, leur mode de vie. Ça demandait d'être vraiment creusé.
Bon, merci pour toutes ces précisions. Et puis, tout à l'heure, après une nouvelle petite pause musicale, nous allons nous retrouver face à notre lauréat du prix Fulbert 2015. Après cet intervalle musical, nous revoici au studio de Radio Grand Ciel. Nous parlons du prix Fulbert 2015. Tout à l'heure, le prix Fulbert de jeunesse qui était au centre de notre conversation. Il s'agissait, je rappelle, L'enfant trouvé de l'abbaye d'Anne-Marie Cadeau-Collin. Et maintenant, je m'adresse plutôt à Monsieur Samuel Sadone. Monsieur Sadone, le prix Fulbert 2015 vous a été octroyé pour votre œuvre La peur au Moyen-Âge, paru aux éditions Ouest France. Voyez, je dis déjà le ton, la peur au Moyen-Âge.
Oui, ça fait peur.
Parce que ça fait peur tout de suite. Avant toute chose, je vous adresse toutes mes félicitations.
Merci.
Et voici ma première question. Votre livre est d'une immense richesse et extrêmement instructif, Mais pourquoi ce sujet? Pourquoi la peur?
Parce que j'ai souvent peur. Non, pas du tout.
Vous voulez vous faire peur?
C'était quand même dans le contexte d'une trilogie, c'est-à-dire un premier ouvrage sur invention et découverte au Moyen-Âge avait été publié chez Ouest France en 2006. Mm-hmm. D'ailleurs, là, c'était mon apport personnel. On a trouvé naturel de faire une suite qui s'appelait Le Fantastique au Moyen-Âge, même si ce mot, on en a parlé tout à l'heure, n'a rien à voir avec le Moyen-Âge, ce serait plutôt le merveilleux. Et dans ce livre, j'ouvrais quelques portes sur certaines peurs au Moyen-Âge, et mon éditeur, mon éditrice, a trouvé qu'il serait bien de faire un livre à part entière sur la peur. Et comme nous étions tous les deux des fans du célèbre livre de Jean Delumeau, La peur en Occident, qui parle finalement très peu du Moyen-Âge. Bon, on a pénétré dans cette brèche, et donc la peur au Moyen-Âge est ainsi née.
De toute façon, vous êtes un médiéviste.
Alors, on va dire un médiéviste de seconde main, qu'un vrai médiéviste pour moi, c'est quelqu'un qui regarde les manuscrits, qui connaît le latin jusqu'au bout des doigts, le latin médiéval, le latin antique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Cicéron, je ne sais pas s'il aurait lu les livres du Moyen-Âge. Ouais. Et non, moi je suis de seconde main, c'est-à-dire que j'ai une bonne connaissance de la bibliographie déjà des médiévistes du XXe siècle, une bonne connaissance aussi des livres de l'époque, parce que maintenant ils sont très bien édités. On parlait tout à l'heure du Lancelot. Avant, ça a été très dur de le trouver à la feuille étriche, déjà. Mm-hmm. Aujourd'hui, on trouve en livre lettres gothiques de poche sans le moindre problème.
Voilà, donc finalement, tout ça devient beaucoup plus accessible. Mm. Mais vraiment, avant d'ouvrir votre livre, je n'ai jamais envisagé la peur comme une chose qui pouvait être un sentiment particulier ou commun à un groupe. Je veux dire, on dit on a peur, mais je veux dire que analyser comme ça la manière dont vous l'avez détaillé, tout magnifiquement illustré ce livre. Alors, à ne pas lire peut-être avant de se coucher, mais...
lumière bien allumée.
Voilà, bien allumée, voilà, exactement. Hein. Vous le saviez toujours ou seulement depuis que vous avez fait vos recherches que finalement ça pouvait être partagé comme ça, collectif, privé, etc., particulier.
Non, il y avait quand même déjà une connaissance. Finalement, il y a une chose que j'ai appris que je ne savais pas avant d'écrire le livre, c'est le chapitre sur les peurs animales. Mm-hmm. Là, vraiment, j'ai appris quelque chose, tout à fait par hasard d'ailleurs, le livre était presque fini. Quand je suis tombé sur ce livre, alors je ne parle pas des procès dont parle Michel Pastoureau, mm-hmm. mais c'est de peur du cochon.
Ça m'a étonné.
Moi aussi, puisque je vous avoue que c'est le dernier chapitre qui a été ajouté au livre. Je suis tombé sur le livre de Madeleine Ferrière, même, je dirais, complètement par hasard. C'est quelqu'un qui me l'a prêté, enfin d'ailleurs qui devait me prêter un autre livre, qui m'a prêté celui-ci à la place. Donc, ça a été ma grande découverte. Pour le reste, c'était... Bon, des assemblages de connaissances diverses que, bien sûr, j'ai été revérifier. Une lecture d'une autre manière de certaines œuvres littéraires. Parce que du coup, bien entendu, quand on lit une œuvre sous un angle précis, on fait de nouvelles découvertes.
Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que c'est la première fois que vous êtes venu à Chartres. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller visiter un peu la cathédrale. Si. Il faut dire que la cathédrale, c'est comme le Louvre. Il faut vraiment y consacrer des semaines et des semaines, puisqu'on peut tout détailler. Et en particulier, c'est assez amusant, il n'y a pas très longtemps, il y avait une conférence qui était consacrée à la représentation de la peur du Moyen-Âge dans la cathédrale de Chartres. Faites par les guides à la cathédrale qui font autre chose que nous accompagner. Ils font des recherches en même temps. Alors.
J'ai bien compris qu'il faut que je revienne à Chartres, pour différentes raisons. Oui.
Est-ce que pour vous, la peur du Moyen-Âge était différente de la peur qui peut nous surprendre ou nous agresser? Parce que je trouve ça comme une agression.
Je n'arrive... En fait, j'ai posé la question dans l'introduction et en la lisant, on comprend que je n'ai pas vraiment la réponse. Par certains aspects, j'ai l'impression que finalement, la peur du chômage... même si c'est dit sous d'autres noms, où la peur de la nouveauté sont toujours présentes. Oui. Puisque finalement, aujourd'hui, ça s'est un peu passé, mais je me souviens d'avoir travaillé dans des entreprises où tout le monde avait peur de travailler sur l'informatique. Parce que c'était nouveau, qu'on ne savait pas comment on allait s'y prendre. Mmh. Et la peur de la maladie, la peur du lendemain. Mais en même temps, la vraie question est de savoir finalement qui a peur dans cette société et à quel niveau a-t-on peur? Est-ce que c'est une crainte quotidienne? Est-ce que c'est une crainte occasionnelle? Est-ce que c'est une crainte collective?
C'est étonnant à combien de cas on peut énumérer.
Oui, voilà, oui. De la peur. Et à mon avis, on écrira un jour la peur au XXIe siècle, et malgré toute la documentation dont on dispose, on ne pourra pas vraiment dire ce qui faisait peur aux gens du XXIe siècle. On aurait une image par les médias, mais qui ne veut pas dire que nous, dans notre esprit...
J'avais l'impression, en lisant votre livre, que finalement, cette peur au Moyen-Âge était en grande partie due à l'ignorance.
Oui.
Est-ce que le fait qu'on soit devenu si savant maintenant, ou du moins on imagine qu'on sait des choses, est-ce que ça nous rend moins peureux?
Ah mais on ne sait pas tout, puisque qu'est-ce qui nous fait peut-être le plus peur aujourd'hui, c'est le climat. Et justement parce qu'on ne sait pas où on va.
Oui, c'est ça.
Finalement, on n'a plus tellement peur des Martiens. On peut même dire que pourtant le terrorisme aurait de quoi nous effrayer, et on peut dire que la population, je trouve, réagit de façon assez rationnelle. En revanche, le climat ferait peur, parce que justement c'est inconnu.
Alors, vous avez mis longtemps à rassembler toutes ces peurs?
Alors, pas si longtemps que ça, puisque c'est finalement les travaux des deux ouvrages précédents qui m'ont aidé. Et puis, bon, il faut dire que M. Delumeau avait fait déjà un tri qui m'a beaucoup aidé.
Ah, d'accord.
Non, finalement, c'est la relecture des livres de fiction. Hein, nous en parlions tout à l'heure. Des livres de fiction, une relecture de romans ou du journal du Bourgeois de Paris, qui m'a nécessité du temps.
Ah, d'accord.
Sur tout cela.
Et là, vous continuez dans le Moyen-Âge ou bien votre prochain ouvrage va se tourner vers
pas.
Autre chose?
Non, là, je viens de finir deux ouvrages, l'un, une petite biographie de Jules Verne, et l'autre se passe sur la bataille d'Austerlitz.
D'accord.
Oui, aussi. Rien à voir du tout.
Effectivement. Effectivement, c'est assez loin tout ça. En tout cas, j'espère qu'on le lira certainement avec plaisir. Notre libraire préféré, Sperluette, Olivier, ce n'est pas son nom, mais c'est la librairie qui s'appelle Sperluette. Monsieur Géroudet, je crois que les félicitations sont encore de rigueur cette année. Et avant tout, bien sûr, aux deux lauréats qui nous ont fait le plaisir de faire visiter le Moyen-Âge encore une autre façon, d'une autre façon. Et aussi au jury, bien sûr, puisque le jury a réalisé un choix excellent, comme d'habitude. Madame Cadeau-Collin, Monsieur Sadoun, j'espère que ces quelques heures passées dans notre belle ville de Chartres vous auront donné envie de revenir, ou bien au moins quelques idées pour un nouvel ouvrage, pourquoi pas?
Assurément, oui.
En tout cas, merci d'être venu, chers auditeurs. Merci aussi de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine Par ici les sorties.
Merci. Merci. Thank you.